de quel côté se trouve la vérité, ou, sans nous avancer autant, la probabilité la plus élevée. À vrai dire, cela fait longtemps que le cas Vespucci ne pose plus de problèmes géographiques ou philologiques. Il est devenu un jeu intellectuel auquel tout esprit curieux est libre de se livrer, un jeu dont la donne saute aux yeux, car il se joue avec peu de pièces, l'œuvre littéraire connue de Vespucci se résumant à une quarantaine ou une cinquantaine de pages, tout document compris. Aussi me suis-je senti autorisé à remettre à mon tour les figures sur l'échiquier et à rejouer, coup après coup, cette magistrale partie d'histoire avec tous ses errements et ses revirements. La seule contrainte d'ordre géographique que ma présentation des faits imposera au lecteur sera d'oublier toutes les connaissances qu'il doit à la précision de nos atlas et d'abord d'effacer radicalement de sa carte intime la forme et même l'existence de l'Amérique. En effet, il faut s'immerger corps et âme dans l'obscurité et les incertitudes de ce siècle pour pouvoir ressentir l'étonnement et l'allégresse d'une génération qui vit s'esquisser les contours d'une terre insoupçonnée sur une étendue jusque-là infinie. Or, quand l'humanité découvre quelque chose, elle veut lui donner un nom. Et quand elle jubile, elle veut crier haut et fort sa joie et son plaisir. Ce fut donc un jour de liesse que celui où le hasard lui souffla soudain un nom, et sans demander son reste. Elle s'empara de ce mot coloré qui sonnait si bien, et s'empressa de saluer son nouveau monde de ce nouveau nom, de ce nom éternel d'Amérique. La situation historique. En 1000, l'Occident est plongé dans une torpeur accablante. Les yeux sont trop las pour jeter alentour des regards curieux, les sens trop épuisés pour être en éveil. L'esprit humain est annihilé comme après une maladie mortelle. L'humanité ne veut plus rien savoir du monde qui est le sien. Plus étonnant encore, même ce qu'elle savait, elle l'a inexplicablement oublié. On a désappris à lire, à écrire et à compter. Les rois et les empereurs d'Occident sont désormais incapables de coucher leur propre nom au bas d'un parchemin. Les sciences se sont momifiées, figées dans le dogme théologique. La main de l'homme ne sait plus représenter son propre corps par le dessin ou la sculpture. Un même brouillard opaque obstrue, pour ainsi dire, tous les horizons. On ne voyage plus, on ignore tout des contrées étrangères, on se barricade dans les châteaux forts et dans les villes, contre les peuples barbares qui déferlent sans cesse de l'Est. On vit à l'étroit, on vit dans les ténèbres, on vit sans audace. L'Occident est plongé dans une torpeur accablante. Il arrive qu'une vague réminiscence d'un monde autrefois différent, plus vaste, plus coloré, plus lumineux, plus allègre, plein d'événements et d'aventures, émerge de ce sommeil comateux. N'a-t-on pas eu autrefois des routes qui sillonnaient tous les pays et que parcouraient les légions romaines, suivies des licteurs, gardiens de l'ordre et garants du droit? Un certain César n'avait-il pas conquis à la fois l'Égypte et la Bretagne? Les galères romaines n'abordaient-elles pas ces pays situés au-delà de la Méditerranée où aucun navire ne se risque plus depuis des lustres, par crainte des pirates? Un roi du nom d'Alexandre n'avait-il pas atteint l'Inde, ce pays fabuleux, pour revenir ensuite par la Perse? N'y avait-il pas autrefois des sages qui lisaient dans les étoiles et connaissaient la forme de la terre et le mystère de l'humanité? Il faudrait regarder dans les livres. Mais il n'y a plus de livres. Il faudrait voyager et voir des contrées étrangères. Mais il n'y a plus de routes. Tout cela est révolu. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Et puis aussi, à quoi bon fatiguer? À quoi bon rassembler ses dernières forces puisque tout est fini? L'an 1000, c'est prédit, verra la fin du monde. Dieu l'a condamné car il a trop